journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, les plus jeunes masqués, les plus âgés revaccinés. Annonce surprise cette nuit du ministère de l'Éducation. Les élèves de primaire repassent au masque à partir de lundi dans toute la France. Plus tôt, c'est Emmanuel Macron qui annonçait le rappel de vaccins obligatoires pour conserver son pass sanitaire quand on a plus de 65 ans. Le président qui a longuement défendu son bilan et qui renonce à la réforme des retraites d'ici la fin du quinquennat, à peine sous-entendu, ce sera pour le suivant et il faudra travailler plus longtemps, comme il faudra, dit-il, construire de nouvelles centrales nucléaires. On y reviendra tout à l'heure avec votre invité, Nicolas.
Oui, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, dans le grand entretien dans 20 minutes. Il publie également un éternel soleil, aujourd'hui en librairie chez Albin Michel. Dialoguez avec lui, vos questions au 01 45 24 7000.
Ne plus avoir froid chez soi, première journée nationale de la précarité énergétique. Un Français sur 5 n'arrive pas à se chauffer correctement. À la une aussi, Claude Guéant et Patrick Buisson éreintés par le parquet financier au procès des sondages de l'Élysée. Ils réclament contre eux de la prison ferme. La lanceuse d'alerte de Facebook devant l'Assemblée nationale ce matin. Et le dernier, Nanni Moretti, au cinéma ce mercredi, radiographie d'un immeuble romain façon tragédie antique.
France Inter.
Emmanuel Macron n'en a pas parlé hier soir, non, c'est le ministère de l'Éducation qui l'a annoncé tard dans la nuit. Le masque redevient donc obligatoire pour plus de 4 millions d'écoliers du primaire partout en France et quelle que soit la situation épidémique. Cette semaine, 38 départements en étaient exemptés, là où le virus circule peu. Eh bien, à partir de lundi, c'est terminé. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Régime masqué pour tout le monde.
Fini les distinctions, effectivement, en fonction de ce taux d'incidence qui remonte partout. Les chiffres du début de semaine ont déjà évolué. Il ne reste, selon le site Covid Tracker, que 17 départements avec un taux d'incidence couperet, c'est-à-dire en dessous des 50 cas pour 100 000 habitants. Du coup, lundi, effectivement, retour du masque pour tous à partir du CP, y compris dans l'Aube, par exemple, où le taux d'incidence n'est qu'à 23 toujours. Retour du masque également dans la Marne, où David Nicanor, le président de la FCPE locale, n'aura pas à faire trop de pédagogie auprès de ses enfants.
Mon fils, qui est en élémentaire, porte le masque depuis la rentrée septembre 2020. C'est devenu obligatoire à partir de novembre. Ensuite, juste avant les vacances d'octobre 2021, on nous dit qu'ils peuvent l'enlever. J'ai dit à mon fils, continue à porter le masque. Il y a un repère simple, c'est que si la maîtresse porte le masque, tu continues à porter le masque.
David Nicanor a juste un regret, comme beaucoup, cette politique du stop and go.
Qui consiste à dire, vous pouvez sortir, puis finalement vous ne pouvez plus sortir. Qui consiste à dire, ne portez pas le masque, puis finalement portez le masque. Je pense qu'il vaut mieux expliquer clairement que nous sommes entrés dans une crise assez exceptionnelle et qu'il vaut mieux avoir des pratiques au quotidien qui permettent de s'en prévenir sans les modifier constamment.
Le sas de respiration aura donc été de courte durée pour tous ces enfants et leurs parents qui doivent probablement se faire à l'idée ce matin que le masque restera en vigueur une bonne partie de l'hiver, la saison froide et humide que le virus préfère.
Voilà pour les enfants, merci Béatrice Duguay. L'autre annonce de la soirée signée Emmanuel Macron plus tôt concerne, comme on s'y attendait, les plus âgés.
Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, je vous appelle à vous protéger en prenant rendez-vous dès maintenant auprès d'un centre de vaccination, de votre médecin ou de votre pharmacien. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire.
Un rappel obligatoire pour continuer à se servir de son pass quand on a plus de 65 ans avant l'ouverture de la campagne de rappel aux plus de 50 ans en décembre. Voilà ce qu'en pensent les principaux concernés. Réaction recueillie par Yann Gallic à la sortie d'un concert ici même à la maison de la radio et de la musique hier soir.
Ça me paraît très bien, il ne faut pas le limiter à plus de 65 ans. Il y en a assez d'entendre la vaccination, que c'est un manque de liberté, c'est exactement le contraire. La vaccination, c'est de la liberté pour tous.
Vous trouvez que c'est plutôt une bonne chose de faire ce rappel ?
À la troisième dose, oui. Mais obliger les gens à la faire, non. Chacun fait ce qu'il veut, finalement. On est quand même suffisamment adulte pour s'apercevoir que si on veut la santé, il faut le faire, quoi. Il n'y a pas besoin de nous pousser à faire quelque chose, quand même. Cette obligation, ça me gêne beaucoup.
Vous avez quel âge ?
83 ans, alors je suis dans les gens à risque.
Donc vous avez déjà fait la troisième dose?
Oui, absolument. Je pense que c'est fondamental pour se protéger, pour protéger les autres, bien sûr.
Je trouve que c'est inadmissible de créer une différence entre ceux qui ont plus de 65 ans et les autres.
Mais vous allez la faire, du coup, cette troisième dose?
J'avais l'intention de la faire, mais que le pass sanitaire soit lié à cette troisième dose est inadmissible.
Voilà, en tout cas, comme cet été, le site Doctolib a été pris d'assaut après l'annonce du président. 100 000 rendez-vous pris dans l'heure qui a suivi son allocution. À 5 mois de l'élection présidentielle, maintenant, Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de parler du Covid. Il a aussi longuement vanté son bilan, esquissant ce qui serait son programme de futur candidat à une réélection. Ainsi, la réforme des retraites repoussée à un éventuel prochain quinquennat et plus sous la même forme. Il faudra, dit le président, travailler plus longtemps, repousser l'âge légal de départ pour sauver le système, le pire des scénarios pour les syndicats. Écoutez la colère de François Omeril qui défend les cadres à la tête de la CFE-CGC.
C'est toujours la même histoire, la même chanson qu'on nous chante, la réforme nécessaire. Mais qu'y a-t-il de nécessaire dans une éventuelle réforme des retraites, puisque tous les éléments objectivés que l'on a entre les mains, les éléments rationnels, les éléments chiffrés, nous indiquent qu'il n'y a absolument pas nécessité de déclencher une réforme des retraites qui va déstabiliser le système même de retraite par répartition. Donc c'est une escroquerie intellectuelle. Depuis 2014, l'espérance de vie à la naissance n'augmente plus, hommes et femmes confondus. Donc il faut quand même être assez culotté, hein, pour revenir aujourd'hui à cet argument éculé qui a été vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
François Omeril de la CFE-CGC avec Maxime Debs. Enfin, dernière annonce du président, la relance du programme nucléaire. Nous allons construire de nouveaux réacteurs, promet Emmanuel Macron sans plus de précision, et continuer de développer les énergies renouvelables.
8h07, voilà qui nous amène, Florence, à cette journée que lance entre autres la Fondation Abbé Pierre contre la précarité énergétique.
12 millions de Français ont froid dans leur logement parce qu'ils n'arrivent pas à se chauffer correctement. Les prix du gaz et de l'électricité augmentent. Et comment maintenir une température correcte quand sa maison ou son appartement est une passoire? C'est l'enjeu de la rénovation énergétique qui est aussi bonne pour la planète. Sauf que ça coûte très cher au départ. Célia Quiret, vous êtes rendue dans une copropriété de région parisienne en plein travaux. Elle est en train de réduire ses émissions de CO2 de moitié.
Derrière les échafaudages, on aperçoit très vite la laine de roche, essentielle pour isoler la façade de cet immeuble des années 50. Les copropriétaires ont mis 4 ans pour s'entendre sur ce projet de rénovation globale. Mais la présidente du conseil syndical, Rolande Labzaé, est déjà contente du résultat.
Le confort est ressenti immédiatement par les copropriétaires. Ils nous l'ont fait remonter. Notamment des personnes âgées qui avaient très froid le matin lorsqu'elles se levaient, nous ont indiqué que vraiment c'était confortable et que ça faisait plaisir.
Et en effet, les murs sont moins froids, il ne fait plus 17 degrés sous le toit, mais cette propriétaire d'un 3 pièces a dû économiser une somme très importante.
Disons qu'un projet comme ça, on est autour d'à peu près 30 000 euros. J'ai 26 000 à sortir.
Or, sans le prêt collectif qui a été accordé par l'organisme Île-de-France Énergie, certains propriétaires n'auraient jamais pu accepter ces travaux. Rim Sacker est maître d'œuvre du projet.
Là, on est sur un projet où on doit avoir 36% d'économie d'énergie. Tout ce travail va permettre en fait de réduire donc les factures de chauffage, d'électricité, mais aussi ne pas aller vers d'autres moyens comme de la climatisation ou autre chose en fait.
Les travaux seront finis en principe en février. Certains propriétaires rêvent déjà de panneaux solaires sur le toit pour alléger encore plus leurs factures. Or le reste à charge est bien trop élevé pour ces travaux. Certaines associations demandent une refonte des aides financières pour la rénovation thermique des logements.
Célia Quiret, la précarité énergétique, on en parle dans nos principales éditions aujourd'hui sur franceinter.fr aussi. Et rendez-vous pour vos questions au téléphone sonne ce soir avec Fabienne Sintès. Elle s'est présentée dans la soirée dans un fast-food de Sablé-sur-Sarthe à 10 km du lieu de sa disparition. La jeune femme de 17 ans qui n'était pas rentrée de son jogging lundi après-midi en Mayenne a été retrouvée en état de choc et c'est bien la piste de l'enlèvement qui est privilégiée. De la prison ferme requise au procès des sondages de l'Élysée contre Patrick Buisson, accusé d'avoir largement profité du système, 2 ans dont un ferme et 100 000 euros d'amende. Et contre Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de Nicolas Sarkozy, 6 mois ferme requis contre lui parce que son rôle a été central dans cette affaire. Le relique arrive, les représentants du parquet financier n'ont pas retenu leur coup hier.
L'Élysée en 2007, c'était les écuries d'Augias de la dépense publique, lance l'un des deux procureurs financiers. On n'y passe aucun appel d'offres au nom d'une vieille coutume, sauf qu'au regard de la loi pénale, une coutume, ça ne vaut rien. Claude Guéant est dépeint en secrétaire général tout puissant, grand Manitou à la manœuvre dans l'attribution des contrats de sondage et de conseil en opinion. Le procureur tense au passage ses déclarations contradictoires et voit le signe, je cite, d'une délinquance chevronnée. Il est vrai que le casier judiciaire de M. Guéant commence doucement à se remplir, ironise-t-il, une allusion à la condamnation définitive de l'ancien ministre de l'Intérieur dans l'affaire des primes en liquide. Autre personnage central, Patrick Buisson, conseiller extérieur de Nicolas Sarkozy, selon l'accusation, en commandant à sa propre société des sondages pour le compte de l'Élysée, l'historien s'est comporté en propriétaire de l'argent public avec une seule logique, faire des profits. Le parquet financier a également requis 10 000 euros d'amende contre l'ancienne directrice de cabinet Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, tout en saluant sa volonté de faire enfin le ménage dans les pratiques de l'Élysée.
L'Aurélie Carive, toujours au chapitre judiciaire. Le verdict dans le procès du meurtre de Mireille Knoll est attendu aujourd'hui. Et puis un ancien président au procès des attaques du 13 novembre 2015, c'est François Hollande qui viendra témoigner devant la cour d'assises spéciale, toujours aujourd'hui. C'est le visage et la voix du moment en tournée mondiale contre Facebook. Francis Hogan est attendu en France à l'Assemblée nationale ce matin. Cette ancienne cadre du géant des réseaux sociaux en croisade pour la régulation des géants du net est très attendu, Antoine Gignot, par les députés français de tous bords.
Pour la majorité, c'est un appréciable coup de projecteur. Francis Hogan l'a déjà dit, sa référence en matière de régulation de données numériques, c'est le texte que le Parlement européen examine en ce moment et dont plusieurs modalités ont déjà été intégrées à la loi séparatisme adoptée en août, rappelle Sacha Houlier, député La République En Marche. Il compte bien, face à la lanceuse d'alerte, évoquer les sanctions prévues pour les géants d'Internet.
C'est des amendes d'un montant de 1 million d'euros en cas d'absence de régulation. Et le but, c'est de se dire que est-ce que le filet qui a été établi, il est suffisamment précis? Et voir si en France, eh bien, on est à la hauteur des enjeux que elle a pu identifier aux États-Unis.
Mais pour être à la hauteur, il faudra aussi parler du rôle de la Commission nationale informatique et liberté et de ses moyens, ajoute à la France insoumise Hugo Bernalicis, qui veut lui aussi interpeller Francis Hogan.
J'ai plein de questions à lui poser sur le fonctionnement de Facebook et comment on fait pour se doter d'une administration suffisamment puissante pour dissuader effectivement les géants du numérique d'avoir un usage frauduleux de nos données.
Frances Hogan, elle, vient aussi entourée de communicants pour défendre sa propre cause. Coïncidence de l'agenda, la commission des lois de l'Assemblée s'apprête à se pencher sur un texte qui renforce la protection des lanceurs d'alerte.
Cette opération de sauvetage dans la Manche ces deux derniers jours et plus de 200 candidats à l'exil vers l'Angleterre rapatriés sur les côtes françaises. Les tentatives de traversée se multiplient à l'approche de l'hiver alors qu'à l'Est, l'Allemagne demande des sanctions contre la Biélorussie accusée d'envoyer des migrants vers la Pologne. Ils sont des milliers à la frontière entre les deux pays. Et hier soir, c'est Vladimir Poutine qui a été pris pour cible par le gouvernement polonais. Il accuse le président russe d'être le commanditaire de cette crise migratoire. On y revient avec Pierre Aski juste après ce journal.
8h13, un trésor restitué, Florence, un autre vendu aux enchères.
Alors que la France rendait hier au Bénin le trésor d'abonnés, ça n'est pas une restitution qui aura lieu aujourd'hui, mais bien une vente d'objets précolombiens chez Christie's à Paris. Le Mexique, suivi de la Colombie, du Guatemala, du Honduras et du Pérou, s'y opposent. Mais Valérie Crova, ils n'obtiendront sans doute pas gain de cause.
Un pendentif Olmec estimé à 150 000 euros, un masque Teotihuacan datant de 1500 ans, dont la valeur est comprise entre 20 et 40 000 euros. Voici quelques-uns des objets proposés dans le catalogue de Christie's, aux grandes dames de l'ambassadrice du Mexique. Elle a demandé l'annulation de la vente, sous prétexte qu'elle encourage le pillage du patrimoine national mexicain. Une requête illégitime, selon la maison Christie's, pour qui la provenance de ces objets ne fait aucun doute, après que les vendeurs ont fourni une preuve de propriété. La fronde mexicaine se base sur une loi de 1972 selon laquelle les biens des civilisations précolombiennes sont la propriété inaliénable de la nation. Pour tenter d'apaiser les tensions, le Mexique et la France ont signé une déclaration d'intention pour renforcer leur coopération dans la lutte contre le trafic illégal des biens culturels. Insuffisant pour le Mexique qui veut obtenir l'arrêt de la commercialisation de ces objets qu'il considère comme sien.
Valérie Crova, 4-2, c'est du foot et un très beau score pour les filles du PSG hier soir en Ligue des Champions, troisième journée. C'est le Real qui en a fait les frais sur la pelouse du Parc des Princes. Enfin, si on s'offrait une virée romaine pour finir, rien de plus simple, il suffit de se payer une place de cinéma pour aller voir le dernier Nanni Moretti, Trepiani, les trois étages de l'immeuble sur lequel se concentre le cinéaste pour nous parler de la famille, de la justice et du pardon, Alexis de Meyer.
En pleine nuit, un automobiliste alcoolisé encastre son véhicule dans le rez-de-chaussée d'un bâtiment de 3 étages. Une séquence aux frontières de l'absurde qui sert de porte d'entrée à ce film choral. Et pour la première fois de sa carrière, Moretti adapte un roman, celui de l'Israélien Eshkol Nevo.
Je ne me suis pas senti du tout diminué en tant qu'auteur, du fait que l'histoire ne soit pas mon histoire, mais celle d'un écrivain. Et contrairement à mes autres films, il n'y avait cette fois-ci pas de place pour l'ironie.
La vie, la mort, la famille, les thématiques développées ici par Moretti sont plus proches de la tragédie antique que de l'habituelle satire sociale. Hormis l'attaque d'un refuge pour migrants par des militants d'extrême droite, la politique est laissée hors champ.
Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler de Berlusconi, il y a un temps pour parler de l'humanité des gens et de leurs sentiments. C'est vrai que c'est un film qui n'est pas directement politique.
Mais il est tout de même question ici de plusieurs concepts qui agitent notre époque, comme la charge mentale et la zone grise du consentement.
Eh ben, vaste programme pour ce Trépiani, dernier film de Nanni Moretti.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
De nombreux brouillards, Marie-Pierre.
Et oui, et même parfois givrants, hein, car il gèle dans pas mal de régions ce matin. Alors ces brouillards sont très nombreux, du sud-ouest au centre, au bassin parisien, aux Ardennes avec des visibilités réduites, pas plus de 50 mètres par exemple vers Meaux ou Auxerre. La Corse reste en vigilance orange pluie-inondation à cause des pluies orageuses envoyées par cette dépression qui se dirige vers les Baléares et qui apporte aussi du vent. Alors cette instabilité déborde sur la région PACA et le Languedoc-Roussillon avec des petites pluies et ces nuages de l'Occitanie au Massif central jusqu'aux Alpes où il neige d'ailleurs en haute altitude comme sur les Pyrénées, puis de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Le ciel reste chargé, les températures sont très contrastées ce matin entre les moins 6 dans la Marne, moins 3 à Nevers, moins 2 sur les Ardennes, 2 à Paris et Bordeaux, alors qu'on relève 19 à Cannes et 17 à Bastia.
Et un peu plus ensoleillé cet après-midi.
Oui, après Nicolas, la dissipation des brouillards, le soleil va s'imposer des côtes atlantiques jusqu'au centre, à l'Île-de-France, nord-est au Jura. En revanche, le mauvais temps et les pluies orageuses vont persister sur la Corse et autour de la Méditerranée. Et près de la Manche, pas de changement avec un ciel plombé et avec des températures de saison. 9 à Metz à Paris, 10 à Lille, Strasbourg, comptez 12 à Lyon, 14 à Clermont-Ferrand, 15 à Bordeaux et encore 20 à Marseille, Ajaccio et Antibes.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h18, c'est Géopolitique.